RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. Aujourd'hui dans les GG, nous sommes avec Julie Martinez, la petite nouvelle dans la bande des GG, elle est juriste. Frédéric Farah, professeur d'économie. Mourad Boudjela, l'éditeur de bande dessinée. On sera avec Lénarque, le chirurgien, le docteur Laurent Alexandre tout à l'heure à 11h20. Comment l'intelligence artificielle va bouleverser notre monde, notre société, va nous rendre immortels. Le transhumanisme est en marche. Mais peut-être pour ceux qui auront le plus les moyens. On en parlera avec Laurent Alexandre. Franchement, écoutez bien parce que on n'imagine pas à quel point l'intelligence artificielle aujourd'hui va révolutionner notre société, les métiers de la science, les métiers comme le tien aussi, avocat, juriste et autres.
Mais même, ça va plus loin, c'est que l'intelligence artificielle va pouvoir prédire la date de notre mort. Alors, est-ce qu'on a envie de savoir quand va-t-on mourir ?
Non. Et est-ce qu'il est souhaitable d'être immortel ?
Non, franchement pas.
Ah bah voilà. Bah, Laurent Alexandre viendra en débattre avec les GG, avec les grandes gueules. En attendant, parlons d'une spécialité française immortelle, celle-là aussi, la grève.
Oui. Moi, je la défends aussi.
Je ne suis pas surpris. Hein.
Alors,
la grève des dentistes, surtout, vous l'appelez.
Alors, attendez,
c'est la préférée.
Voilà. C'est une grève, celle des aiguilleurs du ciel. Ils sont 4000, et c'est vrai que c'est un maillon essentiel, profession du trafic aérien, les aiguilleurs du ciel. Une grande partie des fonctionnaires, puisqu'ils sont fonctionnaires, avaient déposé un préavis de grève. Le principal syndicat l'a levé, mais ça reste à pagaille quand même.
Oui, alors c'est très français, c'est complètement ubuesque. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de grève, mais tu as quand même les conséquences d'une non-grève. C'est-à-dire qu'il y a moins d'avions aujourd'hui dans les aéroports parisiens, alors que la grève a été levée, notamment par le premier syndicat majoritaire. Et pourquoi ? Parce qu'on n'a pas eu le temps du côté des compagnies aériennes de remettre à flot le trafic et d'assurer les trains, les avions qui étaient prévus. Donc c'est quand même... Même quand ils ne font pas grève, il y a les conséquences de la grève. C'est quand même quelque
chose. Et en plus, ils seront payés quand même.
Et ils seront payés quand même. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ?
C'est
vrai que les aiguilleurs du ciel sont parmi les fonctionnaires les mieux payés de France. C'est vrai qu'ils ont un métier qui est important, qui demande de la précision, des études, de la vigilance. Néanmoins, lorsqu'on compare le sort d'un aiguilleur du ciel français avec les voisins européens ou plus loin, ils sont quand même très bien lotis, ils ont beaucoup d'avantages, ils sont très bien payés. Là, on leur demande de faire un peu plus d'efforts, plus de productivité, d'où le déclenchement de ce conflit. Par exemple, moi j'ai appris qu'il y avait un système qui s'appelle la clairance. Aujourd'hui, un chef de salle dans une tour de contrôle peut décider que compte tenu d'un trafic aérien faible, il n'y a pas beaucoup de boulot, et donc le contrôleur est dispensé de travailler. Il repart chez lui. Mais sa journée est considérée comme travaillée. Donc il ne travaille pas, mais il est quand même payé. Voilà. Il y a quand même beaucoup d'avantages.
Aujourd'hui, c'est reparti chez eux.
Il y a beaucoup d'avantages comme ceci. C'est vrai qu'au regard de la situation des autres fonctionnaires français, on peut estimer que c'est pas tout à fait normal. Donc certains disent que c'est même une grève des nantis.
Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette grève, Julie ?
Alors déjà, j'ai essayé de comprendre un peu ce dont il s'agissait, quelles étaient finalement les revendications de ces contrôleurs aériens. Et si j'ai bien compris, le principal syndicat de ces contrôleurs-là met en avant qu'il y a un projet de réforme qui va modifier l'organisation de travail des contrôleurs aériens en vue de l'augmentation de 30% du trafic aérien d'ici à 2030. Cette réorganisation du travail a des conséquences parce qu'en fait, on va fermer des tours et on va pousser ces contrôleurs à travailler plus et être relocalisés ailleurs que là où ils travaillent aujourd'hui. Donc quand on sait qu'on vous propose de travailler plus et de travailler potentiellement dans un autre endroit, moi je trouve ça légitime qu'on proteste. Ce serait quand même... je sais pas, mais si on délocalisait les grandes gueules à Venise, bon, peut-être que vous ne râleriez pas, mais...
Oui, moi j'y vais tout de suite.
Mais on peut se dire que du coup, c'est normal que le salarié demande finalement une compensation pour ça. Là où, effectivement, on peut s'émouvoir, c'est qu'effectivement, ça tombe toujours au mauvais moment. Ça pose un problème pour les pauvres Français qui veulent juste rentrer chez eux. Et aussi, là, dans ce que j'ai dit, ce qui n'a fait réagir personne autour de ce plateau, c'est que ce projet de réforme, il vient parce qu'en fait, on s'attend à une augmentation de 30% des vols d'ici à 2030. Mais moi, c'est ça qui me scandalise. On nous demande de faire attention à nos trajets, etc. Et là, on se rend compte que d'ici à 2030, on s'attend déjà à une augmentation de 30% des vols. Bon, moi, c'est ce qui me scandalise le plus là-dedans, si vous voulez, qu'ils fassent grève ou pas.
C'est-à-dire que les appels de Jean Covici ne fonctionnent pas. Parce que
les appels de Jean Covici ne fonctionnent pas.
Il nous avait dit qu'il fallait limiter, je crois, à 2 ou 3 vols dans une vie.
Mais oui, mais c'est scandaleux. On ne peut pas demander aux Français de faire...
Mais tous les contrôleurs aériens...
Si c'est le cas, il va me pendre.
De tous les contrôleurs aériens d'Europe, ce sont les contrôleurs aériens français qui ont franchement
Les meilleurs avantages.
Le meilleur statut et le temps de travail le
après,
plus bas.
Je comprends qu'ils se battent pour garder un statut qui est vraiment un statut
favorable. Mourad. Voilà.
Moi, je pense que dans toute grève, quand on décide de faire grève, on se cherche d'abord un alibi. Alors l'alibi, tu viens de nous le donner. Mais la raison essentielle, c'est qu'on veut plus de pognon. Mais on ne peut pas le présenter comme ça. Il faut un alibi. Voilà. Et je pense que simplement, les contrôleurs aériens, ils ont leur alibi aujourd'hui qui tient la route. Hein. C'est bien construit, c'est bien présenté. Mais la finalité, c'est on veut plus de pognon. C'est tout. On veut plus de pognon parce que la crise de 2019, suite au Covid, est terminée. Aéroport de Paris, enfin en tout cas, se remet à gagner de l'argent, à avoir des résultats positifs. Et les syndicats se disent, on veut être de la fête. Alors que quand ça a été soutenu par l'État pendant la crise Covid, là, il n'y a pas eu de grève, hein, c'était réglé. Mais simplement, voilà, aujourd'hui...
C'est payé, c'est juste...
Voilà, aujourd'hui, les comptes redeviennent... Le trafic aérien redevient à peu près à retrouver sa normalité. Et donc, ils veulent profiter au retour à la normale, c'est tout. Mais tout le reste n'est qu'alibi pour avoir plus de pognon.
Alors moi je dirais c'est bien d'avoir plus de pognon parce que tout le monde veut avoir plus de pognon.
Oui, mais ça peut se défendre aussi. Oui. Mais c'est sûr que médiatiquement c'est moins bien vis-à-vis des gens. Quoi.
Oui, mais je crois
pas. Comme la SNCF qui nous dit on fait grève pour vous. Quoi. Non, bien mais... sûr. ne la faites pas.
Moi je dirais que si ils ont le statut le plus avantageux, moi je dirais si l'Europe peut essayer de changer ses mauvaises habitudes et faire en sorte que ce qui est le plus avantageux se généralise et pas le contraire, ce serait une bonne nouvelle. Mais ça c'est autre chose pour l'Europe. Ça, elle ne lui arrive pas souvent de faire ça. Deux, ouais, il y a un projet quand même de réforme. Moi aussi, je suis allé voir. On va supprimer des tours, on va réduire, le maillage du en termes de tours de contrôle et autres. Évidemment, ça va créer une pression. Alors, j'aimerais savoir, pour que la sécurité des gens soit assurée, on veut qu'ils soient plus productifs. Qu'est-ce que ça veut dire un contrôleur aérien plus productif ?
Il travaille 32 heures. Hein.
C'est-à-dire que il va devoir gérer plus de flux. Et là, sur l'histoire de la clairance, je suis allé voir sur le site du syndicat.
Oui, c'est pas la clairance.
Si, je suis. Moi, parce que j'ai trouvé que la question était passionnante. Je me suis plongé avec joie, quoi.
Pareil.
Vraiment, j'ai trouvé ça passionnant parce que je me suis dit, bon, c'est. Moi, je vais faire un aveu, j'adore prendre l'avion, hein, je le dis tout de suite, même si je me fais tuer, c'est pas grave. J'adore prendre l'avion.
Attention.
Moi aussi. Mais j'adore ça. Et en fait, qu'est-ce qu'ils disent sur le site du syndicat? Alors peut-être que. Bon, moi, j'en sais, je suis pas contre. Il dit oui, mais il faut pas mettre en avant ce truc parce que quand c'est par exemple des jours un peu rouges en termes de ils travaillent beaucoup plus. Donc là, c'était moins, mais c'est surcompensé après. Donc le syndicat met en avant que faut arrêter de mettre en avant ce truc parce que peut-être ils vont moins travailler, mais en fait ils vont être remobilisés après. Moi, je me pose la question, qu'est-ce que ça veut dire un contrôleur aérien plus productif demain qu'hier? Est-ce qu'il va gérer, je dis n'importe quoi, peut-être 100 avions au lieu d'en gérer 50? Est-ce que cette surcharge va se faire au détriment de la qualité du travail? Est-ce que ça va se faire au détriment de la sécurité même des avions? Je n'en sais rien.
Non, mais ça, c'est l'argument que tout gréviste
du
avance.
Gaucho, voilà. C'est-à-dire, du gaucho.
Non, pas du gaucho, du gréviste, c'est-à-dire qu'à SNCF, on nous fait le même coup en disant, attendez, hein, ça va être au détriment de votre sécurité.
Eh oui, bien sûr.
Il n'y a aucune étude qui le démontre, mais c'est toujours au détriment de la sécurité. Donc, on fait un chantage à la sécurité. Et donc, forcément, vous avez raison. Mais tu écouteras Laurent Alexandre qui va t'expliquer qu'au contraire, avec l'intelligence artificielle, bientôt, on n'aura plus besoin d'aiguilleurs du ciel. Donc, je pense que c'est des gens, ils ont raison, ils s'accrochent à un statut, à des privilèges. Ils savent que,
la
fête est terminée. La fête est terminée.
Il n'y a plus besoin de compas et de règles.
Et donc, ils se battent encore pour tu sais que la fête poursuivre encore de quelques heures, mais la fête est terminée parce que avec effectivement les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, leur métier ne sera plus le métier qu'ils ont exercé.
A déjà dû beaucoup changer ces dernières années. Je veux dire, il s'est allégé,
bien sûr,
forcément.
Mais
ils ont des aides qu'ils n'avaient pas à l'époque.
Pas, et je le dirais
comme un commandant de bord.
Que les cheminots, les contrôleurs ou autres sont des nantis. Non,
les cheminots, ils ont eu droit à une réforme des retraites à la carte. Avec les dernières négociations.
On se plaint en France que le dialogue ne fonctionne pas, que le dialogue social ne fonctionne pas, et quand on a enfin un accord. Oui, mais c'est du chantage. Mais est-ce que le gouvernement ne fait pas du chantage pendant les Jeux Olympiques, en virant les étudiants de leurs appartements étudiants, en virant les SDF de nos rues, en les déplaçant dans d'autres villes pendant les Jeux Olympiques? Est-ce que ça, c'est pas du chantage aux Jeux Olympiques? Alors, c'est toujours dans le même sens. C'est pas normal.
Oui, je vais expliquer à faire un truc qui s'appelle économique, assez simple.
Ah bon?
Mais oui, explique-moi. Ça veut dire que tu as
des notes.
Tu as des charges et des produits, c'est très bête. Et qu'à un moment, si tu n'as pas les produits en face pour augmenter tout le monde, tu crées des charges supplémentaires. Et ça se répercute sur quoi? ben soit sur l'aide de l'État, comme pour la SNCF, soit sur le prix de vente du billet, et c'est le consommateur qui paie.
Là, Julie,
attendez, on va écouter Patrick. Simplement,
Julie, ce qui est choquant, c'est que ce qu'on accorde aux uns, on l'accorde pas aux autres. Il y a beaucoup de fonctionnaires qui aimeraient avoir les privilèges des aiguilleurs du ciel, et il y a beaucoup de salariés, d'une manière générale, qui aimeraient aussi qu'on contourne pour eux la réforme des retraites, comme on l'a fait pour les cheminots.
Il y a beaucoup de grandes gueules.
Ils n'ont pas le pouvoir de bloquer le pays comme d'autres.
Oui, mais parce que en économie, il y a une seule chose qui marche, c'est le rapport de force. Sinon, ça marche pas.
Oui, mais tu as un rapport de force pour un cheminot, c'est plus facile que pour un artisan.
Oui, mais on est descendu dans la rue contre.
Juste une chose, puisque tu fais.
Il fallait pas voter Macron deuxième tour, Frédéric Farah.
D'honnêteté morale, Frédéric Farah.
J'aime quand tu me dis ça.
Voilà.
Ah, oui, mais ça, c'est le. C'est quand ça commence bien comme ça, après, t'en prends une. Tu vois.
Non, c'est pas ça. Est-ce que tu penses, puisque tu dis qu'il faut établir le rapport de force pour améliorer ta situation, est-ce que tu penses que la situation, déjà des aiguilleurs du ciel, était dégradée?
Je pense.
On travaille pas, hein.
Elle n'était pas suffisamment bonne.
Est-ce que tu penses que c'est l'urgence sociale du pays qui a amélioré la situation des aiguilleurs du ciel par rapport à toutes les professions? Est-ce que tu penses que c'est l'urgence?
Non mais
parce que ça va coûter, voilà, ça va coûter de l'argent.
Oui, mais oui. On peut dire, au regard de plein d'autres pays, on peut dire qu'il y a aucune profession qui devrait aller.
Non mais la mauvaise foi,
Patrick, bonjour
religion,
Patrick. Oui. Patrick qui est avec nous du Puy-de-Dôme. Qu'est-ce que vous pensez de cette grève? Est-ce qu'on exagère en disant que c'est une grève de nantis ou pas, alors?
Ben oui, moi je vous dis complètement. Déjà je suis intimidé. Hein, bonjour. Déjà bonjour. Mourad.
Restez assis.
D'habitude je suis d'accord avec vous. Puis merci pour ce que vous avez fait pour le rugby.
Merci.
Mais là non, c'est pas possible. Les gens ils défendent. Ben, en gros ils défendent leur bistec. À un moment donné, si on est jaloux, par exemple moi, moi je suis technicien, j'ai un coefficient, je suis payé le temps pour mon travail temps. Mais si je suis jaloux, ben je vais essayer d'aller passer le concours, puis d'aller être aiguilleur du ciel, ou d'être conducteur de train pour partir plus tôt, ou d'être contrôleur. Donc à un moment donné, faut pas être jaloux des gens.
Enfin, c'est pas jaloux, on n'est pas jaloux.
C'est pas jaloux, mais on dit qu'on, eux ils ont eu ça. Ben voilà. Ben, ils ont eu ça. Ouais, mais ils sont battus.
C'est de l'argent public. Moi je peux dire qu'avec ma peur de l'avion, je suis plutôt admiratif des aiguilleurs du ciel.
C'est l'argent public, et surtout leur mouvement perturbe beaucoup de gens et fait perdre de l'argent à la France.
Oui, mais je suis d'accord. Mais à un moment donné, on fait perdre de l'argent. Ben moi, je paye mes impôts. Hein. À un moment donné, je
vous
paye des impôts comme
pour
je
ça.
Pense. Mais à un moment donné, ben oui, parce qu'à un moment donné, j'ai pris l'avion. Regardez, je suis parti en Irlande. Et ben j'étais bien content qu'il y a un mec qui me guide de l'avion parce que il s'est pas cassé la gueule.
Oui, bien sûr.
Mais s'il n'y avait pas le mec, il n'aurait pas décollé, je pense.
Vous êtes allé où en Irlande, Patrick?
J'étais à Killyleagh. J'étais pour faire la Saint-Patrick.
Oh bah dites donc, vous êtes revenu dans quel état, mon cher Patrick?
Je suis rentré en pleine forme et je peux vous dire que je peux vous dire que, alors je sais pas si on a le droit de dire, mais leur fameuse bière là, un peu
la Guinness. Couleur,
mais je sais pas si on a le droit de le dire, Julie.
Non, bah avec modération.
Pardon.
Avec modération. Mais franchement, j'ai passé une semaine. Je demande à tout le monde d'aller faire.
Vous êtes régalé.
Ah ouais, j'étais à Donpatrick exactement, là où il y a le Saint Patrick qui est enterré.
Et après vous étiez Patrick.
Vous
n'avez pas payé 5 euros pour arriver là-bas.
Non mais donc en fait Patrick, vous dites ce que vous dites aujourd'hui, c'est quand il y a des gens qui ont un bon statut et qui peuvent encore l'améliorer, tant mieux, bravo, tant mieux pour eux. Quoi, c'est ce que
oui, mais Patrick, on est quand même dans une économie globale dans ce pays où il y a des priorités, notamment quand dans un pays est endetté comme le nôtre et dans un pays où les fonctions régaliennes sont aussi mal assurées, il y a peut-être d'autres axes de développement.
On a cherché du côté
Patrick,
de la
merci. D'avoir été avec nous, Patrick, qui défend les aiguilleurs du ciel. Ils ont raison de défendre leur beefsteak, c'est ce qu'il a dit. Est-ce qu'on a
et les vendeurs de bière, qui défend aussi.
Un mouvement de nantis. On va regarder ce que vous en pensez, là, pendant le petit quart d'heure où on en a parlé. Oui, 70-30. Voilà comment... Un peu de musique, vous savez pourquoi? Parce que demain, nous sommes le 26 avril. Okay. Et demain, 26 avril, on vous fait gagner 26 000 euros. Enfin, vous aurez la possibilité de gagner les 26 000 euros. Comment? En m'envoyant chance par SMS au 732-16. Demain, à la même heure, l'un ou l'une d'entre vous sera tiré au sort, me fera gratter un petit ticket. Et peut-être que ce ticket, il y aura 26 000 euros. Donc, vous m'envoyez chance par SMS au 732-16.
Pas mal.
Chance par SMS au 732-16.
Et le 52 avril, 52 000 euros.
Vous avez 5 minutes pour vous inscrire. Il faut en profiter. C'est simple comme un petit tirage au sort. Le coup de bol du jour demain pour vous, peut-être
000 euros, c'est bien.
Les 26 000 euros. L'immortalité, le transhumanisme, la fin de la mort.
peut-être pas de la mort biologique,
non,
mais de la mort de l'esprit, ça c'est terminé. On pourra continuer de vivre de manière virtuelle. ChatGPT va nous rendre immortels. Le docteur Laurent Alexandre signe ce livre de réflexion aux éditions Jean-Claude Lattès et il va venir en parler avec nous.
RMC,
9h midi,
les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, discussion et débat tous les jours de 9h à midi avec vous, bien sûr, au 32-16. Si vous souhaitez parler de l'intelligence artificielle, peut-être que ça vous fait peur, ça vous inquiète, eh bien, vous venez nous le dire parce que ça va être notre prochain sujet de discussion, justement.
RMC, les grandes gueules.
Et c'est le docteur Laurent Alexandre qui est avec nous. Il est énarque, il est chirurgien. ChatGPT va nous rendre immortels. Livre de réflexion basé sur des données précises aussi. Et le livre sort aux éditions Jean-Claude Lattès. Bonjour docteur Laurent Alexandre.
Bonjour.
Alors on va parler de l'obsession, notamment des milliardaires de l'intelligence artificielle qui ont l'obsession de devenir immortels, enfin de faire reculer la mort. Avant ça, il faut peut-être redéfinir c'est quoi l'intelligence artificielle ?
L'intelligence artificielle, c'est créer l'équivalent de l'intelligence humaine, puis plus que l'intelligence humaine, grâce à des ordinateurs surpuissants qui réalisent des milliards de milliards d'opérations par seconde, et grâce à la connaissance humaine qui est dans le web, qui est dans Internet. Et donc on donne à digérer à l'intelligence artificielle, grâce à cette puissance informatique extraordinaire, toute la connaissance humaine, et derrière l'intelligence humaine imite, et dans le futur, elle dépassera l'intelligence humaine.
Qu'est-ce que le transhumanisme ? Parce que c'est ce qui est la clé aussi, la ligne de conduite de votre livre. Alors, c'est quoi le transhumanisme ?
Alors, il y a deux idéologies dans la Silicon Valley. C'est-à-dire, parmi les milliardaires de l'IA, il y a les transhumanistes qui veulent augmenter l'homme. Par exemple, Elon Musk veut mettre des circuits intégrés, Neuralink, dans le cerveau de nos enfants pour augmenter leur intelligence. Ça, c'est du transhumanisme. On augmente l'homme, notamment pour rendre l'homme compétitif face à la super intelligence artificielle. Et Elon Musk a même déclaré qu'il mettrait ses microprocesseurs qu'il fabrique dans le cerveau de ses propres enfants, tellement il a confiance dans le fait qu'il est indispensable et urgent d'augmenter nos enfants pour éviter qu'ils soient écrabouillés par l'IA. Ça, c'est le transhumanisme. Puis à côté, vous avez le post-humanisme. Par exemple, les dirigeants de Google pensent que la bataille entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle est dépassée, et que l'intelligence artificielle n'est pas un outil ou un domestique, mais qu'elle est en fait notre successeur. D'ailleurs, il y a une grosse bataille
entre... C'est la fin de l'humanité, donc.
Il y a une grosse bataille entre Elon Musk, qui veut augmenter l'homme, et puis les dirigeants de Google, qui veulent dépasser l'homme et qui pensent que nous devons laisser la place à l'intelligence artificielle. Il faut savoir que la bataille entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle, elle va être compliquée. Sam Altman, l'inventeur de ChatGPT, a déclaré que l'intelligence artificielle sera en 2033 des milliers, des millions de fois supérieure à l'intelligence humaine. Elon Musk a déclaré il y a 15 jours que d'ici décembre 2025, c'est-à-dire dans 18 mois, l'intelligence artificielle sera plus intelligente que l'humain le plus intelligent sur Terre, et qu'en 2029, l'intelligence artificielle sera supérieure, sera plus intelligente que la réunion des 8 milliards d'êtres humains sur Terre.
Concrètement, ça va changer quoi ? Parce que on en parle beaucoup, on est un peu effrayé, on entend que beaucoup de métiers vont disparaître.
Non, ils vont pas disparaître, ils vont beaucoup changer. Si vous prenez la médecine, par exemple, qui est mon univers, l'intelligence artificielle est en train de nous dépasser, nous médecins, dans de plus en plus de spécialités. Donc la question qui se pose, c'est comment on réorganise la médecine, comment on réorganise les études de médecine, comment on réorganise l'hôpital, parce que la plupart des gens aujourd'hui à l'hôpital n'ont pas leur place dans le monde de l'intelligence artificielle. Donc il y a
par exemple.
Beaucoup du personnel paramédical réalise des tâches que l'intelligence artificielle va réaliser demain. Et même pour les médecins d'aujourd'hui ne sont pas adaptés à l'intelligence artificielle puisqu'ils vont être moins bons que l'intelligence artificielle. Ce qui ne veut pas dire que les médecins vont disparaître. Dans le diagnostic, c'est déjà le cas. Dans la plupart des domaines, l'intelligence artificielle nous dépasse. Et on a vu récemment aux États-Unis une maman dont l'enfant avait une pathologie rare, et les 17 meilleurs spécialistes américains ne trouvaient pas la réponse. Et elle est allée sur GPT-4 qui a trouvé en 10 secondes la maladie de son gamin. Ces cas vont se multiplier. Donc le problème n'est pas que les médecins vont disparaître, mais les médecins vont devoir changer radicalement la façon dont ils travaillent.
On dit beaucoup que ça va justement supprimer les métiers de savoir, alors que la révolution industrielle du 19e siècle a supprimé des métiers physiques. Et d'ailleurs, souvent, heureusement, parce que ça, c'était les métiers de forçat. Là, c'est les métiers de savoir qui vont disparaître, les métiers d'avocat, de médecin.
Ils vont pas disparaître, ils vont muter radicalement. Mais les métiers manuels vont aussi être impactés. Des dizaines de milliards de dollars sont investis à l'heure actuelle pour faire des robots dotés d'intelligence artificielle. Par exemple, ChatGPT va équiper des gammes de robots. Et donc, on va avoir des robots ouvriers, des robots laveurs de carreaux qui vont avoir l'intelligence d'un scientifique ou d'un polytechnicien. Et ça va être une rupture radicale parce qu'aujourd'hui, les travailleurs manuels n'ont pas les capacités d'un ingénieur, par exemple.
Mais est-ce que... Frédéric Farah.
Quand je vous écoute, ce qui me paraît très inquiétant à travers ça, c'est le monde qui se dessine derrière. C'est-à-dire quoi ? Vous dites, ils n'auront plus leur place à l'hôpital. Donc la question, est-ce qu'on n'est pas dans ce que l'économiste Pierre-Noël Giraud avait appelé, pas par rapport à l'intelligence artificielle, mais par rapport à des évolutions de la mondialisation, l'homme inutile ? Deux, est-ce que finalement on se dit transhumanisme pour augmenter, pour faire face, vous dites effectivement, à cette intelligence artificielle. Donc, c'est-à-dire, c'est une vision hyper conflictualisée du monde, hyper conflictuelle, où la seule logique qui va gouverner les rapports, c'est une hyper-compétitivité. Okay. Est-ce que dans un monde obsédé par l'hyper-compétitivité, il y a de la place pour de l'empathie ? Est-ce qu'il y a de la place pour de la solidarité ? Est-ce qu'il y a de la place pour le rire ?
Alors, de l'empathie, oui, mais il faut pas croire que l'empathie est spécifique à l'humanité. Une étude publiée dans JAMA, qui est la troisième plus grande revue médicale au monde, a montré que ChatGPT est plus empathique que les médecins. Donc, il faut pas imaginer que le monde du rire, de l'empathie, de l'innovation est spécifique à l'homme. En réalité, l'IA va nous dépasser dans beaucoup de domaines, donc il faut qu'on galope. Il faut changer radicalement l'école. Le ministère de l'Éducation est parfaitement adapté aux années 90. Il est pas adapté à l'ère de l'IA. Je supplie Madame Belloubet de mettre des spécialistes de l'intelligence artificielle dans son ministère. Aujourd'hui, il n'y en a pas. On envoie nos gamins au casse-pipe face à l'intelligence artificielle. Il faut les former,
c'est-à-dire former
pour le monde de demain. Mais ils ne vont pas être compétitifs. Donc, personne au ministère de l'Éducation ne réfléchit à la façon dont il faut former nos gamins pour qu'ils aient une chance face à l'intelligence artificielle. L'école, sous la forme actuelle, est totalement condamnée. Et le ministère n'en a rien à foutre. Madame Belloubet n'est pas une spécialiste de l'IA. Non. Il est scandaleux. Qu'au ministère de l'Éducation en 2024, il n'y ait pas un spécialiste de l'intelligence artificielle. C'est scandaleux. Et nos gamins, c'est eux qui vont payer la discussion.
Est-ce qu'Emmanuel Macron, sur cet aspect politique, parce que Madame Belloubet, comme le dit Frédéric Farah, peut-être que dans quelques mois, elle sera plus ministre. Mais Emmanuel Macron, qui dirige, et qui est quand même plutôt la Startup Nation, tourné sur ces questions-là. Est-ce qu'il a pris conscience que l'intelligence artificielle allait être au cœur de notre vie ?
Alors, Macron a pris un peu le virage, et d'ailleurs, il soutient beaucoup Mistral, qui est la start-up française qui essaie de se battre contre les géants de la Californie et qui est dirigée par un petit génie incroyable qui est Arthur Mensch. Donc, il soutient Mistral, il a soutenu la start-up Nation. Malheureusement, au gouvernement, il y a moins de gens passionnés. Et le Premier ministre, Gabriel Attal, qui est un mec super, ne s'intéresse pas à l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, il faudrait que le gouvernement soit très largement orienté sur l'intelligence artificielle, ce qu'il n'est pas. Et nous ne pouvons plus nous permettre de prendre du retard parce que nous sommes très très près du moment où l'intelligence artificielle va nous dépasser. Donc il faut réorganiser la société, réorganiser l'école, même l'université doit être revue de fond en comble.
Oui, mais juste, attendez, vous dites l'intelligence artificielle va nous dépasser, on n'en prend pas conscience, il n'y a pas de spécialistes qui sont au poste clé aujourd'hui, qui ont pris conscience du défi. Mais quel est notre retard par rapport aux grands patrons de Meta, c'est-à-dire Facebook, de Google et autres? Qu'est-ce que sont en train de faire qui fait qu'ils vont plus vite que nous?
Ils vont plus vite que nous. Il faut savoir que Google vient de lancer un programme de 100 milliards de dollars sur l'IA. Facebook est en train d'investir des dizaines et des dizaines de milliards sur l'IA. Microsoft a lancé également un programme de 100 milliards sur l'IA. Et si vous prenez Microsoft et OpenAI, le fondateur de ChatGPT, et puis Google, ils sont en train de payer les spécialistes en intelligence artificielle 10 millions par an. 10 millions. C'est-à-dire les bons développeurs informatiques aujourd'hui, ils sont payés 10 millions par an. Donc évidemment, quand au CNRS, vous êtes les informaticiens, les chercheurs sont payés 3007 par mois. Il y a pas photo. Tout le monde se taille vers les géants de l'intelligence artificielle. Mais je le répète, la boîte d'Arthur Mensch Mistral montre que si on se remue un peu, si le gouvernement cesse d'être dans le déni et se met à bosser sur l'IA, il y a une chance pour la France d'avoir une petite place à côté des milliardaires de la Californie.
Une petite place. Julie et Mourad.
Oui, j'ai adoré votre livre. Je pense qu'il pose des vraies questions qu'on devrait pouvoir poser aux Français. J'ai l'impression qu'il n'y a pas du tout de débat public autour des vrais enjeux liés à l'IA.
Personne n'en parle pendant
les
Européennes.
Personne n'en parle pendant les Européennes. Il y a un manque de débat. On n'explique pas aux Français quels sont les enjeux, même géopolitiques, parce qu'aujourd'hui, qui contrôle l'IA contrôle le monde. Il y a cette course effrénée entre les États-Unis et la Chine pour surtout l'IA militaire. C'est pas pour rien. D'ailleurs, des puissances publiques qui sont complètement reléguées et mises de côté, parce qu'en fait, comme vous le disiez, ce sont des acteurs privés et étrangers qui contrôlent en plus cette intelligence artificielle. Mais est-ce que vous pensez qu'on pose les bonnes questions aux Français? Bon, d'un point de vue philosophique, sur le long terme, est-ce que le monde qu'on veut, la place de l'homme, ces questions-là doivent être posées aux Français? Mais par exemple, est-ce qu'on pose aujourd'hui des questions sur des enjeux qui se posent dramatiquement, par exemple en 2024, une année aussi cruciale en matière électorale que celle qu'on va connaître aux États-Unis et en Europe, avec l'impact des modèles d'IA sur la désinformation, qui est un mécanisme qui existe déjà depuis longtemps? Est-ce que les Français sont au courant? Comment est-ce qu'ils peuvent réagir face à des fake news, des deepfakes? Est-ce que ça, vous pensez qu'on suscite suffisamment de débats? Est-ce qu'on alerte suffisamment les Français sur les enjeux qui ont déjà lieu aujourd'hui sur le territoire français? Pas très loin, en Slovaquie, ça a eu un impact très important sur les élections.
Il n'y a pas de débat. C'est-à-dire, le monde politique ne débat pas du sujet le plus important. C'est aussi fou qu'en 79, quand le Vésuve a détruit Pompéi, les gens n'avaient pas conscience de ce qui se passait. C'est pour ça qu'une bonne partie des gens sont restés et sont morts à Pompéi il y a 2000 ans. Eh bien là, on fait la même chose. Il n'y a aucun débat sur l'intelligence artificielle. Nous sommes à une période qui est incroyable, la période de plus grands changements dans l'histoire de l'humanité, et les politiques s'en tamponnent, ils s'en foutent, ils n'en parlent pas, il n'y a pas de débat là-dessus. Je n'ai pas vu un seul débat des Européennes parlant de l'intelligence artificielle, alors que ça va changer la vie des Français, ça va changer leur boulot.
Peut-être parce que aussi les journalistes ne posent pas les questions aussi là-dessus.
Oui, mais globalement,
c'est peut-être assez général.
J'ai pu observer qu'il n'y a quasiment aucun ministre qui a GPT-4. C'est honteux.
N'importe quoi.
C'est honteux. Il y a quasiment aucun ministre qui utilise GPT-4. Donc, à partir du moment où les hommes politiques ou les ministres n'ont pas GPT-4, ils ne peuvent pas comprendre la nature du tsunami qui est en train de se déverser sur nous. Je le disais tout à l'heure. Donc, Sam Altman, le fondateur de ChatGPT, de GPT-4, disait hier soir à Stanford, GPT-5 va être beaucoup plus intelligent que GPT-4. GPT-5 sort dans quelques semaines. GPT-6, dans un an, va être beaucoup plus intelligent que GPT-5.
Et moins que GPT-5.
Il y a une urgence absolument extraordinaire. Et le débat n'est pas lieu. Vous savez, l'hôpital va avoir beaucoup de mal à s'adapter à l'intelligence artificielle. Il faudrait très vite que le ministre de la Santé, M. Valletoux, lance un grand programme d'adaptation de l'hôpital à l'IA.
Lui non plus,
que va-t-on faire quand l'IA est supérieure et plus intelligente à la quasi-totalité des médecins?
Ce qui est dramatique, c'est qu'à la base, il faudrait même des bases de données connectées dans nos hôpitaux complètement non numérisées.
Il y a une chose, et vous avez raison, avec l'application de ChatGPT, vous aurez même un malade sur son lit d'hôpital qui posera des questions et qui dira au médecin, mais attendez, moi, ChatGPT-5 est en train de me dire ça, et je vais avoir plus confiance dans ce que me dira ChatGPT, ce que me dira le médecin aussi.
Oui, mais le but, c'est finalement, l'IA va être supérieure à tous les médecins. Le problème, c'est qu'il faut que l'IA plus les médecins soit supérieure à l'IA sans les médecins. Mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Il y a une étude de Google qui est sortie le 19 janvier dernier, montre que l'IA de Google, toute seule, est supérieure à l'IA de Google plus les médecins en chair et en os. C'est-à-dire que quand on rajoute un médecin qui donne son avis à côté de l'avis de l'IA, on perd 8% de bons diagnostics. Donc, nous, médecins, il va falloir qu'on bosse pour être complémentaires de l'IA, parce que pour l'instant, c'est pas gagné. Il y a des cas, manifestement, où l'IA fait mieux sans nous qu'avec nous.
Vous avez vu le défi.
Si on met deux médecins dans une salle, on a trois avis.
Vous avez vu l'enjeu de l'intelligence artificielle. ChatGPT va nous rendre immortels. Vous allez nous expliquer pourquoi ce titre aussi. Le docteur Laurent Alexandre est avec nous. Le livre est aux éditions Jean-Claude Attès. Franchement, c'est
c'est passionnant, c'est vraiment le monde, même pas de demain, de tout à l'heure, qui est en train de se jouer devant nous.
Et en plus, ça va bien parce qu'il a une petite air de Stephen King.
Question de,
ça va bien avec la thématique.
Question de Mourad Boudjelal dans un instant. Nous serons avec Lionel. Lionel, il est chef de produit digital. Il travaille déjà avec l'intelligence artificielle et il va nous expliquer comment il travaille. Allez, à tout de suite.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story passionnant. Le docteur Laurent Alexandre qui est avec nous. Chat GPT va nous rendre immortel. Le livre est aux éditions Jean-Claude Lattès. Question de Mourad Boudjelal. Ensuite, on rejoint Lionel au 32-16.
J'en ai deux, mais assez courtes. La première, c'est par rapport au monde médical. Vous avez parlé de diagnostic en disant que Chat GPT-4 était plus fort en diagnostic que des médecins. Mais nous, ce qu'on attend de l'IA, c'est pas des diagnostics. Ce qu'on attend, c'est qu'il soit plus fort que les chercheurs. C'est essentiellement ça qu'on attend, qu'il soit plus fort que les chercheurs et qu'il puisse nous aider à avancer, puisque vous parlez d'immortalité,
contre les
à
cancers,
trouver des solutions dans des maladies létales et rapidement. Et c'est ce que la population aujourd'hui, c'est ce que les gens attendent de l'intelligence artificielle, notamment bah, qu'elle apporte des solutions face aux cancers.
Sur ce volet-là, oui.
L'intelligence artificielle galope en recherche. Vous voyez, le Financial Times a calculé que ce qu'a fait l'intelligence artificielle de Google il y a un an pour déterminer la structure en trois dimensions des 200 millions de protéines qui existent sur Terre, ce qui est très important en médecine. Ce que cette IA de Google a fait en quelques jours, il aurait fallu 1 milliard de savants humains pendant un an pour faire la même chose. En quelques jours, l'IA a remplacé 1 milliard de savants humains, mais il n'y a pas 1 milliard de savants sur Terre, bien sûr, 1 milliard de savants humains pendant un an. Donc on voit qu'il y a un effet démultiplicateur de l'IA en recherche. On se sert de plus en plus de l'IA en recherche. On va bientôt avoir l'équivalent de milliards de chercheurs numériques sous forme d'intelligence artificielle.
Et on aura des trouveurs ?
Oh, bien sûr. On commence aujourd'hui à avoir des nouveaux médicaments découverts par l'IA. Récemment, la plus grande revue médicale mondiale a publié un travail sur la découverte de la première nouvelle famille d'antibiotiques depuis 38 ans. Ça fait 38 ans qu'on n'avait pas découvert de nouveaux antibiotiques et l'IA a découvert une nouvelle classe d'antibiotiques. Et ça va se multiplier. Il y a plein de nouveaux médicaments qui vont apparaître découverts par l'IA, développés par l'IA. Et d'ailleurs, les gens de Google estiment que le temps pour avoir fabriqué un nouveau médicament et le développer va être divisé par deux grâce à l'intelligence artificielle. Donc on est à la veille d'un mouvement de croissance très forte, d'un mouvement hyper technologique et hyper scientifique. La décroissance des écologistes, ils peuvent se la ravaler. Nous sommes en train de rentrer dans un monde d'hyper croissance, d'hyper science et d'hyper technologie. La décroissance, on peut la mettre à la poubelle, c'est terminé.
Bon, et une deuxième question rapide que je ne peux pas ne pas vous poser, vous qui êtes une icône du monde des antivax.
Oh non, ne dites pas ça parce que vous savez bien que ça n'est pas vrai.
Mais
non,
oui.
C'est pas vrai.
Est-ce que l'intelligence artificielle a joué un rôle dans la trouvaille d'un vaccin aussi rapidement, enfin d'un vaccin, d'un modérateur de Covid?
L'informatique en général.
Parce qu'aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a débat sur les effets. Et
Effets des vaccins, non, il n'y a pas débat. Le vaccin ARN messager, il a donné très très peu d'effets secondaires. Seuls les complotistes anti-vax qui sont dans beaucoup de cas payés par les Russes ont prétendu le contraire. On a montré en Angleterre de façon certaine que les Russes avaient manipulé les antivax pour décrédibiliser les gouvernements, pour nous affaiblir. Donc non, le vaccin ARN messager contre le Covid, il a donné très peu d'effets secondaires. Il ne faut pas faire croire à l'opinion qu'il y a eu beaucoup d'effets secondaires. Ce sont les services russes qui ont fait croire ça à l'opinion, mais ça n'est pas vrai.
L'intelligence artificielle peut être utilisée d'une façon bénéfique, on vient d'en parler, la santé, la recherche. Mais entre les mains de gens qui nous veulent du mal, ça peut donner quoi ?
Ben vous avez deux choses. Vous avez l'utilisation malveillante par des humains de l'intelligence artificielle, et puis vous avez ce qu'on appelle le non-alignement, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle ait des objectifs qui sont contraires aux intérêts de l'humanité. Les deux problèmes existent, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un débat politique. Eh bien, par exemple, le père de l'intelligence artificielle moderne, Geoffrey Hinton, a déclaré au Financial Times le 19 février dernier, hein, il y a 2 mois, j'estime qu'il y a 10% de chances que l'intelligence artificielle extermine la totalité des 8 milliards d'humains d'ici 2044, c'est-à-dire dans les 20 prochaines années. Donc vous voyez qu'il y a des problèmes de sécurité. Au moment où l'intelligence artificielle va devenir des millions, des milliards de fois plus intelligente que la totalité des cerveaux humains, nous avons des mesures de sécurité à prendre pour éviter que des méchants utilisent l'IA pour faire du mal, mais aussi pour éviter que l'IA devienne méchante et s'oppose aux intérêts de l'humanité. Vous avez les deux risques.
On est dans un roman de Kadic, là, c'est la guerre contre les robots, quoi.
Est-ce que l'IA peut être autonome?
Alors, l'autonomie de l'IA et la conscience de l'IA est très débattue. L'IA aura une conscience un jour. Il est encore difficile de savoir à quel horizon. Ce qui est sûr, c'est qu'elle va nous dépasser. De façon très 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 proche. Avant 2030, l'IA aura dépassé la totalité des êtres humains. Après, son autonomie et la conscience est plus débattue. Il n'y a pas de consensus là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que si vous prenez le consensus de tous les experts mondiaux, en 2020, le consensus mondial, c'était que l'homme serait dépassé par l'intelligence artificielle en 2100. Aujourd'hui, le consensus mondial des experts en intelligence artificielle, c'est que l'intelligence artificielle dépassera tous les humains d'ici 8 ans, d'ici 2030. Donc on est passé d'un siècle à 8 ans dans l'opinion de tous les spécialistes.
Alors, attendez, je voudrais qu'on aille retrouver Lionel qui nous écoute attentivement depuis un quart d'heure. Bonjour Lionel.
Bonjour à
tous. Passionnant.
Et vous vouliez réagir, pourquoi? Vous êtes consultant digital et vous travaillez avec l'IA?
Oui, au sein des équipes, nous on travaille avec l'IA, on en a fait un allié, par exemple dans la conception des produits, pour créer des profils d'utilisateurs. Donc ce qui est important dans l'IA, c'est de bien l'enrichir pour vous aider à créer des produits avec des utilisateurs que vous ne rencontrez pas tous les jours, et il vous permet de tester vos produits, prenez aux développeurs aussi de tester leur code. Donc l'IA est vraiment très intéressant, mais il faut savoir bien l'utiliser. Si vous enrichissez pas l'IA avec des informations intéressantes, ben l'IA ne vous ressortira rien. Par exemple, il peut vous aider aussi dans la rédaction de compte-rendu d'une réunion. Vous lui donnez toutes les notes et l'IA vous fait le compte-rendu. Donc c'est un gain de temps. Donc c'est important.
C'est un gain de temps et que vous utilisez dans votre société au quotidien alors?
C'est utilisé, oui, pour toutes les applications web et sites internet.
Et vous trouvez, comme le docteur Alexandre, aujourd'hui, on est à côté de la plaque en France ou dans les entreprises ou le monde politique, oui?
Non, on a commencé à former les développeurs. On a de plus en plus de jeunes qui les utilisent. On a fait un projet récemment de migration technique. On a interrogé ChatGPT-4 pour lui demander comment il conduirait ce projet. Et on regarde ce qu'il nous dit et on discute. C'est un outil qui nous permet de dialoguer ensemble et de voir des solutions que nous n'aurions pas imaginées.
Mais quels sont les métiers qui vont disparaître? Parce que ça inquiète beaucoup les Français.
Moi, je pense qu'aucun métier va disparaître, mais je pense que les métiers vont profondément changer.
Évoluer.
Les gens qui n'utilisent pas l'intelligence artificielle vont avoir de graves soucis au travail. Parce qu'il n'y a aucune raison que votre patron vous paye pour faire en 3 jours ce que GPT-4 ou GPT-5 va faire en 15 secondes.
Par exemple, la comptabilité.
Il va falloir que tout le monde évolue et travaille pour mieux travailler. Grâce à l'intelligence artificielle.
Non, par exemple, un comptable, je pense.
Là, il peut être remplacé.
Est-ce qu'il ne sera pas remplacé un jour par...
Eh bien, il faut que le comptable acquiert des compétences pour devenir expert comptable, pour devenir consultant financier. Ça suppose une réorganisation profonde dans les entreprises. Ça suppose que la formation professionnelle des adultes se modernise alors qu'aujourd'hui elle est merdique et elle a 50 ans de retard sur en termes pédagogiques. Ça suppose une prise de conscience complète et une mobilisation de toute la société. Parce que de toute façon, ceux qui vont payer les pots cassés, ce ne sont pas les élites de l'intelligence artificielle, ce ne sont pas les petits développeurs de génie payés des millions et des millions, ce sont les gens en difficulté qui ne seront pas bien formés. C'est pour ça qu'il y a un enjeu politique aujourd'hui de formation qui est absolument majeur.
Merci à Lionel d'avoir été avec nous. Un mot quand même. Frédéric, je donne la parole dans 10 secondes, mais quand même l'explication du titre.
Frédéric.
L'explication du titre, ChatGPT va nous rendre immortels, ça veut dire quoi?
La plupart des milliardaires de l'intelligence artificielle en Californie sont obsédés par la mort et ils investissent des sommes folles
pour trouver des
traitements parce qu'ils veulent bénéficier de leurs milliards pendant quelques milliers d'années.
Vous
voyez, le premier gros investissement qu'a fait Sam Altman, l'inventeur de ChatGPT, c'est d'investir des centaines de millions dans une start-up qui est destinée à faire reculer la mort. Les dirigeants de Google ont investi des sommes folles dans la lutte contre la mort. Ils veulent nous rendre immortels. Et le vice-président de Google, Ray Kurzweil, a dit qu'en 2029, les gens qui atteindront 2029 vont, grâce à l'intelligence artificielle, pouvoir déjà vivre 500 ans. Il est convaincu que l'intelligence artificielle de 2029 va déjà largement euthanasier la mort. Donc, cette obsession de la mort dans la Silicon Valley, elle explique le titre de mon livre et elle explique aussi des craintes. Oui. Il y a des jeunes spécialistes de l'intelligence artificielle qui ont dit les vieux milliardaires de l'IA, il faudrait pas qu'ils fabriquent des IA dangereuses pour faire reculer la mort, parce qu'ils ont peur de mourir. Il faut quand même qu'on fasse des précautions. Parce qu'il serait dangereux que les milliardaires de l'IA nous fassent sauter trop d'étapes pour pouvoir devenir immortels. Il faut peut-être mieux que les milliardaires de l'IA acceptent de mourir et qu'on retarde la mort de la mort, c'est-à-dire le moment où l'IA pourra nous rendre immortels, de manière à ne pas aller trop vite, de manière à éviter qu'on ait des IA dangereuses.
Fred, on va qu'ils aient des arguments face aux milliardaires.
L'IA, c'est à la fois la réponse et aussi le problème, une question écologique, parce que ça mobilise... pour faire fonctionner tout ça, ça mobilise beaucoup d'eau, ça mobilise beaucoup c'est les data centers. Et donc, comment on peut articuler et comment faire de l'IA quelque chose qui devient un levier, une réponse à la question écologique, alors que l'IA, dans son fonctionnement, pose un problème écologiquement?
Alors, je vais vous répondre. D'abord, l'IA va considérablement accélérer la mise au point de l'énergie de fusion, qui n'émet pas du tout de CO2. L'énergie de fusion, c'est très compliqué, et pour maintenir le plasma à l'intérieur des réacteurs de fusion, il faut beaucoup d'intelligence artificielle. Puis d'autre part, ne vous y trompez pas, je vais vous décevoir, l'étude récente du MIT, le Massachusetts Institute of Technology, qui est la plus grande université de technologie au monde, a publié une étude qui montre que pour une même tâche intellectuelle, l'IA émet entre 130 fois et 2900 fois moins de CO2 que les humains. Parce que les data centers utilisent beaucoup d'électricité, mais ils mènent des centaines de millions de réflexions et de discussions en parallèle. Donc en réalité, pour réaliser une même étude, un même travail, un même dessin, l'IA émet beaucoup, beaucoup moins de CO2 que nous. Donc si on réfléchit à l'écologie, on aurait tendance à remplacer les hommes par de l'intelligence artificielle, ce que je ne souhaite pas.
Une dernière question, parce que vous posez la question, enfin vous ne posez pas la question, vous l'affirmez, l'intelligence artificielle, avant peut-être de nous rendre immortels, va pouvoir prédire la date de notre mort.
Oui, une étude réalisée au Danemark avec les 5 millions de dossiers médicaux des Danois a montré que l'intelligence artificielle prédit très bien la date de la mort. Et les autorités danoises, le gouvernement danois, a décidé de ne pas révéler les données aux 5 millions de Danois, parce qu'ils considéraient que d'indiquer le moment où on va mourir est quelque chose de trop violent, et ils ont préféré garder secrète cette information.
En tant que
médecin, je trouve que cette décision du gouvernement danois n'est pas éthique, car les 5 millions de Danois dont on connaît la date à laquelle ils vont mourir pourraient, s'ils le savaient, modifier leur mode de vie. Faire plus de sport, arrêter de picoler, arrêter de fumer, maigrir, suivre un meilleur régime. Donc, cacher aux gens cette information que l'IA a révélé sur les 5 millions de Danois, je trouve que ça n'est pas éthique. Il vaudrait mieux le dire pour que les gens puissent changer et pour lutter contre ce déterminisme que l'IA a découvert.
Est-ce que vous allez essayer de savoir quelle sera la date de votre mort, Laurent Alexandre?
J'en suis pas très loin, d'abord parce que il est trop tôt pour que je sois concerné par la mort de la mort. Et puis comme j'ai 64 ans, je suis plus près de ma mort que de ma naissance. Donc ce n'est pas une information très pertinente. Il ne me reste pas 150 ans à vivre, à moins que l'intelligence artificielle aille aussi vite que les dirigeants de Google.
Merci, c'est passionnant.
Laurent Alexandre, et va nous rendre immortel. C'est aux éditions Jean-Claude Lattès. Lisez-le, c'est un vrai défi qui nous attend. Bonjour Estelle Denis, vous allez continuer de débattre dans Estelle Midi.
Bonjour à tous. Mais oui, nous allons continuer à débattre. Bien sûr, on va parler de cette famille expulsée de son HLM pour des faits de délinquance. Est-ce qu'il faut généraliser ces expulsions? On parlera d'un autre phénomène. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, Alain. Est-ce que vous avez déjà fait rater l'école à vos enfants? Vous savez, parce que c'est les vacances.
Pour partir plus tôt,
je me la suis fait rater tout seul.
Peut-être une ou deux fois, oui.
Oui, bon, moi
je
ne
l'ai jamais fait.
Moi, je l'ai fait 15 fois.
C'est un manque de respect
pour l'enseignant. Mais pas du tout, mais ça coûte moins cher.
Mais c'est du respect pour
l'enseignant.
L'enseignant, il vient.
L'enseignant, il est bien content de faire école pour 22 élèves.
Donc c'est la carte, l'école à la carte.
Moi je suis assez pour. Mais je sais que je suis minoritaire.
Et le coup en 4 jours.
Oui, c'est ça.
En 2 jours.
Ça, c'est à cause du télétravail, c'est ce que je vous dise. Donc ça sera notre débat de midi et demi. À 13h, on parlera de ces Français qui trouvent que les droits de succession sont injustifiés. 77% quand même.
Ils ont raison.
Écoutez, bien sûr qu'ils ont raison. Est-ce qu'il faut les supprimer, ces droits de succession? Et puis enfin, l'augmentation des comportements imprudents à la mer ou à la montagne. Vous savez, ces crétins qui vont escalader le Mont Blanc avec des baskets ou qui ne voient pas qu'il y a drapeau rouge sur la plage. Bref, est-ce qu'il faudrait mettre des amendes à ces personnes irresponsables? Ça, ce sera à 14h. La question,
c'est. Pour les sauver, mais il faut les mettre dans un.
Pour les payer. Et s'il survit, tu lui colles 10 000 balles d'amende.
Vous savez qu'il y a eu 14 morts à cause des baïnes l'an dernier sur la côte atlantique.
Allez, bonne émission avec Estelle et nous rendez-vous demain 9h.